Laudetur Jesus Christus.
Le ciel se dégage pour Donald Trump. Les poursuites fédérales qui le visaient dans la tentative de renversement des élections de 2020 sont désormais abandonnées. Ainsi en a décidé le procureur spécial. Nous irons aux États-Unis au début de ce journal. Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est au tour de la France d'autoriser les forces armées ukrainiennes à employer des missiles français pour viser des cibles sur le sol russe. Dans ce journal également, le Pakistan, où les partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan exigent toujours sa libération, mais aussi la démission du gouvernement. La tension monte dans les rues du pays. Et puis, dans notre dossier ce matin, au lendemain de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous évoquerons le sort des Ukrainiennes avec notre invitée, la présidente de l'ONG. Nous ne sommes pas des armes de guerre.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, c'est une nouvelle victoire pour Donald Trump, une victoire judiciaire aux États-Unis. La justice a abandonné les poursuites contre lui pour avoir tenté de renverser les élections de 2020. Le juge fédéral a rendu sa décision hier dans la soirée. Plus tôt dans la journée, le procureur spécial Jack Smith, en charge du dossier, avait demandé à la justice d'abandonner ses poursuites. Le futur président a réagi sur les réseaux sociaux, se réjouissant de cette annonce, estimant que ses affaires étaient sans fondement. La correspondance d'Edouard Maille.
Le procureur spécial Jack Smith est formel. La demande d'abandon des poursuites ne signifie pas que le dossier était vide ou faible, mais seulement que la justice américaine se conforme à la Constitution. Aucun président en exercice ne peut être poursuivi par la justice fédérale. L'arrêt des poursuites contre Donald Trump dans ce dossier marque une victoire, même si techniquement les accusations pourraient être ressuscitées dans 4 ans à la fin de son mandat. Le procureur spécial a aussi demandé l'abandon pour un autre dossier, celui des documents confidentiels trouvés à la résidence de Donald Trump en Floride après sa première présidence et qu'il avait refusé de remettre à la justice. Et autre victoire, il y a quelques jours, la justice de New York a également mis en attente de manière indéfinie la sentence de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. Le milliardaire avait été reconnu coupable d'avoir versé de l'argent à une actrice de film pornographique en échange de son silence après une relation sexuelle. Les avocats de Donald Trump cherchent désormais à faire annuler la condamnation. Condamnation qui avait fait de Donald Trump le premier président élu reconnu coupable d'avoir commis un crime. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Donald Trump qui hier a confirmé que l'un de ses premiers décrets signés une fois installé à la Maison Blanche concernerait l'imposition de droits de douane de 25% sur tous les produits provenant de Chine, du Canada ou du Mexique. Une taxe qui restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays, a précisé le futur président américain. Personne ne gagnera une guerre commerciale, réagit Pékin ce matin, tandis que le Canada a rappelé hier être essentiel pour l'approvisionnement stratégique énergétique des États-Unis. Une réunion ce mardi à Bruxelles entre l'OTAN et l'Ukraine. Elle a été convoquée après le tir jeudi dernier d'un missile russe intercontinental. Kiev demande à ses alliés occidentaux de nouveaux systèmes de défense antiaérienne. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne, c'est au tour de la France d'autoriser les forces armées ukrainiennes à employer des missiles français pour viser des cibles à l'intérieur de la Russie. C'est ce qu'a indiqué le ministre français des Affaires étrangères dans un entretien accordé à la BBC, une décision qui intervient alors que la France et le reste du groupe des 5 pays dirigeants de la défense européenne ont promis hier de renforcer l'aide militaire à Kiev. Marie-Christine Bonzon.
Dans son interview à la BBC, Jean-Noël Barrot annonce que la France a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée français pour frapper à l'intérieur de la Russie. Le ministre français des Affaires étrangères ne dit pas quand cette autorisation a été donnée, mais M. Barrot souligne que l'autorisation en question est limitée à ce qu'il appelle une logique de légitime défense. Cependant, le chef de la diplomatie française ne précise pas si Kiev a déjà lancé des missiles français en territoire russe. L'annonce du ministre d'Emmanuel Macron intervient en tout cas après le feu vert donné par Joe Biden à Kiev pour l'emploi de missiles américains en Russie, un feu vert rapidement imité par la Grande-Bretagne. Du reste, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, et ses homologues britanniques, allemands, italiens et polonais ont décidé hier soir de renforcer le soutien militaire à l'Ukraine, et ce, avant que le président Biden ne passe le relais en janvier à Donald Trump, le prochain locataire de la Maison-Blanche ayant promis au peuple américain de négocier la paix entre Kiev et Moscou. Notre objectif doit être de permettre à l'Ukraine d'agir en position de force, a expliqué hier soir Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
Cette guerre en Ukraine remet aussi en cœur des débats l'utilisation des mines antipersonnelles. Les États-Unis ont promis à Kiev des livraisons, une arme de guerre interdite par la Convention d'Ottawa, entrée en vigueur il y a 25 ans. Hier, au Cambodge, se tenait une conférence marquant cet anniversaire. Un message du pape y a été lu par l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève. Ces mines antipersonnelles continuent de causer de terribles souffrances aux civils, en particulier aux enfants, créant un sentiment de peur supplémentaire qui perturbe les moyens de subsistance et entrave la réconciliation, la paix et le développement intégral, peut-on lire dans ce message de François. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticannews.va. Pour la première fois depuis la chute du communisme en Roumanie, l'Europe de l'Est, la chute du communisme dans l'Europe de l'Est, les sociaux-démocrates roumains ne se qualifient pas au second tour de la présidentielle. À la surprise générale, c'est Carline Georgescu, technocrate pro-russe d'extrême droite, crédité à seulement 5% des sondages, qui est arrivé en tête du premier tour dimanche. Il affrontera le 8 décembre prochain Elena Lasconi du parti centre-droit USR, Union Sauver la Roumanie. Avec 23% des suffrages, Carline Georgescu a notamment su séduire l'importante diaspora roumaine vivant à l'étranger, y compris au sein de l'Union européenne. Les détails avec la chercheuse Ramona Coman et les professeurs de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles.
Pour la diaspora, ce qu'on observe, c'est que le soutien et le vote pour Carline Georgescu vient essentiellement des États membres de l'Union européenne. Et je dirais plutôt des anciens États membres. On le voit arriver en tête en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, même en Belgique, 51%, et aussi au Royaume-Uni. Mais c'est des chiffres sans précédent, et donc oui, pour la diaspora aussi, on sait très bien que la diaspora a toujours voté, a eu tendance de voter contre les sociodémocrates et pour des partis de droite. Or, ici, on voit Lasconi, elle a maintenu son électorat à l'étranger, mais pas dans les pays que je viens d'évoquer. Pas dans ces pays-là où Carline Georgescu a réussi à capitaliser. Après, peut-être aussi, c'est le programme qui a joué beaucoup, parce que c'est vrai, il a un programme ultranationaliste, anti-Union européenne, pro-Poutine, pro-Russie. Mais après, son programme, c'est aussi un programme qui vise des mesures économiques, par exemple pour les petits producteurs, pour les petits indépendants. Et peut-être ce discours a été important pour les Roumains qui vivent à l'étranger.
Des propos recueillis par Alexandra Siergan. Un espoir réel de cesser le feu au Liban. Les discussions ont avancé significativement ces derniers jours, affirme hier à Paris la France qui appelle Israël et le Hezbollah libanais à se saisir au plus vite de cette opportunité. Un accord est proche, ont renchéri les États-Unis. Le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer d'ici ce soir sur cet accord. La paix en Terre Sainte également est le souhait le plus cher du pape François. Il recevait hier une délégation du Conseil universel de la paix composée de jeunes d'origine et de religions différentes dévoués pour la paix dans la région. Le dialogue, a répété François, est le seul chemin qui mène à la paix. Il était l'homme justement du dialogue interreligieux au Vatican. Le cardinal espagnol Miguel Ángel Ayuso est mort hier à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Grand connaisseur de l'islam, ce religieux combonien, ancien missionnaire en Égypte et au Soudan, a été l'une des chevilles ouvrières de la déclaration sur la fraternité humaine signée en 2019 par le pape et le grand imam d'Al-Azhar. Le Pakistan, toujours divisé entre les partisans de l'ancien premier ministre Imran Khan, aujourd'hui en prison, et l'actuel gouvernement de Shahbaz Sharif. Des milliers de partisans de Khan ont encore manifesté dans les rues du pays pour demander sa libération et le départ du gouvernement. Des manifestations qui ont débouché sur de nouveaux affrontements. Correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
Renversé par une motion de censure en 2022, Imran Khan est en prison depuis l'an dernier. L'armée, très puissante au Pakistan, refuse de le faire libérer et elle tente, avec le parti du Premier ministre Shehbaz Sharif, d'écarter son mouvement du pouvoir. En février, le parti d'Imran Khan, le PTI, était arrivé en tête aux législatives malgré la répression, mais il n'avait pas pu former une majorité au Parlement. Pour Imran Khan et ses soutiens, l'élection leur a été volée et ils sont déterminés à renverser le gouvernement. Depuis quelques jours, ils sont des milliers à affluer depuis le nord et l'est du pays vers la capitale. Ils entendent camper devant le Parlement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Leur demande a peu de chances d'aboutir tant que le gouvernement Sharif aura le soutien des généraux et de la police. Mais l'intransigeance dans les deux camps risque de plonger le pays dans un bain de sang. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Et le dernier bilan des affrontements au Pakistan est de 4 paramilitaires tués jusqu'à maintenant. Les violences contre les femmes dans les conflits armés sont devenues un problème systémique. Viols, tortures et pressions psychologiques sont autant de stratégies utilisées pour fragiliser une communauté. Ces violences touchent principalement des civils, mais les soldates, les prisonnières ne sont pas épargnées. En Ukraine, dès le début de l'invasion russe en 2022, la société civile s'est mobilisée pour soutenir les victimes en vue d'établir une justice et aider les survivantes à se reconstruire autant mentalement que médicalement. Mais l'une des priorités aujourd'hui reste l'accès aux soins pour les victimes. On en parle avec notre invitée ce matin, Céline Bardet, juriste, présidente et fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre. Elle a passé le 25 novembre, la journée d'hier, en Ukraine, à la rencontre de victimes.
S'agissant du conflit en Ukraine, on sait que le viol a été utilisé de façon systématisée, particulièrement au début du conflit. Et il faut noter aussi qu'il l'a été à l'encontre des femmes et des filles, mais aussi de certains hommes. C'est important de le relever. Et bien sûr, les femmes et les filles aussi, de manière générale, sont impactées de façon disproportionnée à chaque fois par les conflits. On le voit en Ukraine comme partout dans le monde.
Les victimes ou survivantes sont-elles civiles ou aussi militaires ?
Alors, les victimes en grande majorité sont des civils. En Ukraine, et d'ailleurs aussi, je précise aussi, souvent ailleurs, dans les autres zones de conflit, on voit que les victimes de viols sont en grande majorité des civils.
A-t-on vérifié un impact majeur sur les femmes depuis le début de ce conflit ?
Sur le conflit en Ukraine, l'impact majeur sur les femmes, il est d'une part la question de ces violences sexuelles qu'elles ont subies. Il ne faut pas oublier aussi que cela a un impact non seulement sur la victime, mais aussi toutes les familles. Et quand on parle, par exemple, des soldats, souvent ce qui se passe, c'est que les femmes civiles qui ne sont pas soldates vont être visées par les viols pour justement punir, humilier le soldat, lui, qui est en train de combattre pour défendre son pays si on reprend l'Ukraine.
S'agit-il uniquement de violences physiques ?
Il y a plein de formes de violences. Bien sûr, il y a le viol, mais il y a aussi le viol avec des objets, par exemple. Ce sont des outils de torture. Et il y a aussi, par exemple, les Ukrainiennes, elles parlent énormément de la peur d'être violées. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus parce que, en fait, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de violer. Il suffit, entre guillemets, d'instaurer ce climat psychologique de peur, par exemple d'être violée, et en particulier pour les femmes et les filles, pour instaurer des déplacements de population et surtout une terreur un peu permanente. Et puis, il faut rappeler aussi que le viol, il est aussi utilisé, par exemple, à l'encontre des soldats prisonniers, c'est des outils de torture sexuelle, ça englobe tout ça, les violences sexuelles dans les conflits.
Comment est-il possible d'assurer une justice pour ces femmes ?
Le droit international sur les violences sexuelles dans les conflits définit tout à fait les violences sexuelles. Le statut de la Cour pénale internationale le fait de manière très précise. Donc, ce n'est pas un problème, en fait, aujourd'hui, de cadre juridique, même si le cadre juridique, comme on sait, on peut toujours l'améliorer. Voilà. On sait que la justice, elle prend énormément de temps. On sait que la justice, parfois, il y a tous ces problèmes d'éléments de preuve quand il s'agit des violences sexuelles, parce que parfois, ce sont seulement des témoignages, donc c'est une parole contre une autre, etc. Et donc là, il faut réfléchir aussi aux autres formes de justice. Quand on parle de justice, il n'y a pas que le judiciaire, mais c'est aussi important d'écouter leurs histoires, de leur permettre de reconnaître au monde ce qu'elles ont vécu. C'est par exemple des choses, elles nous disent, c'est très important pour elles qu'on les croit, que leur histoire ait un impact dans le monde, qu'elles existent en fait. Et puis, il faut travailler à la prise en charge, à la réparation, parce qu'on sait, encore une fois, qu'il faut identifier les auteurs, ce qui est très difficile. Et on sait aussi que les processus de justice prennent beaucoup de temps. Qui plus est, là on parle de l'Ukraine par exemple, dans un pays qui est toujours en guerre.
Quel travail auprès des autorités est-il possible de faire pour faire évoluer les comportements en temps de guerre ?
En fait, ce qui est extrêmement important, c'est la question de la prévention. Et la question de la prévention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de travailler auprès des autorités, et notamment des forces de sécurité. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une réaction immédiate des hiérarchies. Ce qui, aujourd'hui, n'existe quasiment pas dans toutes les unités militaires ou de police. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. Parce que s'il y a des réactions de la hiérarchie, s'il y a un nom qui est posé tout de suite, s'il y a des sanctions tout de suite, c'est là où il y aura une prise de conscience beaucoup plus générale pour qu'on comprenne tous que ça, c'est pas admissible, c'est pas acceptable d'utiliser les violences sexuelles dans des contextes de crise ou de conflit.
Interrogée par Jean-Charles Puzolu, Céline Bardet, présidente et fondatrice de l'ONG, « Nous ne sommes pas des armes de guerre », était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera à 13h en direct de Rome. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.